Bienvenue dans la série Brain Conscience.
Bizarre.
Une plongée dans le creuset alchimique de nos corps, comportements et relations.
Mais pourquoi est-il aussi méchant ?
À la rencontre des ingrédients qui nous animent dans le concret de nos vies, sous un angle biologique, curieux et inspirant.
C'est la question qui nous anime tous.
Brain de conscience est la chronique au service du vivant.
Science.
C'est parti pour 6 minutes de brain de conscience. De Nietzsche, qui célèbre le corps en marche, le corps emporté par le mouvement, la danse, on dit souvent qu'il est le philosophe de la vie. De Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste œuvrant pour la paix, on reprendra que le souffle est le pont qui relie la vie à la conscience. Le corps est le souffle, comme déjà évoqué, nos deux ancres, complémentaires ou suppléantes, pour traverser ce qui se présente.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore ?
Ça tangue dans ta vie ? Partons aujourd'hui à la rencontre du souffle.
Desserre ton col pour respirer.
Dans le souffle court, respire.
Quand rien n'est facile.
La respiration, souvent négligée, est pourtant un allié si puissant et une fonction physiologique bien singulière chez nous les humains. Ce n'est pas pour rien que tant de pratiques anciennes comme la méditation, le yoga, les pranayamas, le tai chi et bien d'autres reposent en grande partie sur le souffle. Et qu'aujourd'hui, de nouvelles formes d'exploration de la respiration explosent tout autour de nous. En grec ancien, pneuma signifie souffle, mais aussi âme ou esprit. Coïncidence ? Peut-être pas. Pierre Teilhard de Chardin disait « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Intéressant. Bon.
Quand vous ne comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça, vous ne passez pas pour un glandu.
Toujours est-il que le souffle, c'est aussi notre lien le plus direct avec la vie ici et maintenant. Et tous ceux qui ont essayé de s'en passer plus que quelques minutes ont souvent expérimenté quelque chose de délicat pour le petit humain. Aussi, les stress que nous subissons, que nous tolérons ou nous imposons, perturbent énormément tous les paramètres de notre respiration. Le rythme s'accélère, devient irrégulier ou se bloque en apnée plus ou moins longue. L'amplitude diminue drastiquement, entrecoupée de quelques grandes inspirations de survie. Et l'endroit où le souffle se manifeste dans le corps passe des ceintures diaphragmatiques et abdominales à la zone thoracique haute, voire claviculaire. Tu as déjà vu un bébé respirer ? Un animal de compagnie blotti ou endormi dans son panier ? Est-ce que tu vois leur clavicule bouger ? Non. Est-ce que tu vois leur ventre bouger ? Oui. Alors, étape numéro 1, quand on perd les pédales, revenir en conscience de son souffle. Basiquement, l'air entre par les narines, le ventre donne l'impression de se gonfler, puis de se dégonfler, et l'air tiédit ressort par le même chemin. Si tu n'observes pas cela, arrête tout ce que tu fais, sauf de respirer, et porte ton attention à ta respiration. Jusqu'à ce que tu ressentes l'air aller et venir et que tu aies la sensation que ton ventre bouge. De là, poursuivre avec ce qui rend la respiration particulièrement fascinante d'un point de vue biologique, voire peut-être mystico-psychique, sa double innervation. À la fois, tu respires sans réfléchir. Si, si, arrête de réfléchir 2 minutes et tu vas voir, ça continue tout seul comme la bêtise. Sauf que là, c'est ultra intelligent. Et aussi, tu peux décider à tout moment de prendre une grande inspiration, de retenir ton souffle ou te mettre à faire Ujjayi. Respirer comme le bruit d'une vague. La respiration est en effet sous le contrôle du système nerveux automatique, involontaire. Elle se fait et se régule toute seule quand tu dors ou quand tu parles, par exemple. Et sous contrôle nerveux volontaire. Et là, tu peux l'influencer consciemment par ta volonté. Une coquetterie dont aucune autre de tes fonctions physiologiques de base ne peut se vanter. Coïncidence encore ? Probablement pas. Et c'est là la chance d'un véritable pont entre conscient et inconscient. L'opportunité d'aller titiller des couches plus profondes de notre psyché où se cachent conditionnements et mémoires traumatiques. Les sages aux pratiques ancestrales que nous avons mentionnées plus tôt savaient déjà ce que l'on redécouvre aujourd'hui par la science. 1. Le souffle conscient module notre état intérieur. Et 2. Le souffle conscient, ample et activé nous permet de faire de l'espace et repartir du plus bel dans le mouvement de vie. Mais il y a mille et une pratiques avec le souffle. Alors pour y voir plus clair, voici quelques pistes. D'abord, celles qui permettent d'améliorer notre qualité de présence en observant le souffle, comme dans les pratiques méditatives de pleine conscience. Puis, les pratiques qui permettent de réguler ou équilibrer nos systèmes physiologiques, dont le système nerveux. Là, ce sont les respirations dites maîtrisées, comme les pranayamas ou la cohérence cardiaque. Et enfin, des approches plus engageantes où la respiration est volontairement amplifiée pour transformer nos schémas inconscients et se reconnecter à notre dimension spirituelle. Ces pratiques-là permettent de contacter des états élargis de conscience et demandent à être consciencieusement comprises et encadrées. Le rebirth de Leonard Orr, la respiration holotropique de Groff, la méthode Wim Hof ou encore la respiration transformatrice, plus douce, sans hyperventilation ni transe. Chaque manière de respirer a ses atouts. À toi de voir celle qui te correspond dans l'instant, comme un acte d'amour pour soi, simple, pur, immédiat. Je te dis à bientôt.
Comment on mange un éléphant?
Qui mange des éléphants?
On le mange petit à petit.